dont Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bon après-midi. J'ai pensé à toi plus tôt aujourd'hui dans l'émission. Ça va rejoindre un de tes sujets.
T'as pensé à ton réel?
Non. J'ai pensé à l'aide fédérale. Tu sais, tu nous dis, ça fait une couple de chroniques, puis c'est très, très bon. Tu nous pointes du doigt des espèces de failles où peut-être les bougons vont se faufiler un peu, tout ça. Tu sais, on a été assez at large pour aider le monde, mais j'ai fait une entrevue avec une jeune Québécoise qui vit en Espagne. Ça, tu sais quoi, l'aide là-bas du gouvernement?
Non.
Les entreprises n'ont pas le droit de congédier personne, faut qu'ils payent pareil. Donc, eux autres, ils ont décidé ça. Tout le monde garde leurs employés. Mais elle est travailleur autonome. Pas une scène. Zéro. Elle paye son employé. Elle a un employé. Il fabrique des auvents, OK? Une petite entreprise familiale.
Il
a un employé.
Paye, peu importe ce qui arrive, même si elle n'a pas de revenus.
Elle n'a pas le choix de payer l'employé. Le gouvernement, pour aider à traverser la crise, tu payes encore ton monde. Fait qu'elle a zéro revenu. Elle ne vend pas d'auvents, zéro. Elle paye son employé. Résultat, elle ne sait pas comment elle va nourrir son fils dans deux semaines.
On s'est entendu que ça, c'est genre, envoyer les entreprises directement à faillite. Tes créanciers vont devenir tes employés.
Regarde, il y a des employés qui sont contents. OK, on garde nos jobs, on est encore payés. Mais sauf que ça met une pression. Puis là-bas, ça a l'air qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes, de petites business. Il y en a à tonnes, des petites. Ils n'ont plus de revenus, zéro. Et il n'y a pas d'aide directe aux citoyens.
Ça, c'est la première information qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qu'on nous dit pas?
Ça. Regarde,
il y a un remboursement fiscal à la fin de l'année, il y a-tu d'autres affaires, je ne sais pas.
Mais bref, tu vois qu'au moins ici, là, dans quelques jours, les gens vont avoir le 2000 par mois, puis ça va permettre à personne au moins de se dire « je vais-tu crever de faim », tu sais.
Exact.
Au moins. Tu veux me parler des négligés de l'aide fédérale. Commençons par ça.
OK, mais écoute, facile. C'est une panoplie de personnes. Un,
ouais.
Je commençais par les étudiants d'été, hein, on les a oubliés, mais c'est volontaire, puis c'est correct. Non, je dirais pas que c'est correct. C'est difficile pour les gens qui payent leurs études avec ça et qui sont autonomes. Comme moi, quand j'avais 18-19 ans, j'étais 100% autonome. J'avais juste mes jobs d'été en usine. Puis c'est ça qui payait ma vie. Fait que si tu m'enlèves ma capacité de travailler, puis l'aide, moi, tu me sacrais à la rue, là. Ouais. Tu sais, j'étais pas riche-riche, là. J'étais dans le trou, là. Il y a 20 ans, si tu m'avais fait ça, moi, j'étais dans la rue. Parce que je peux pas me trouver de job. Puis en plus, tu me payes pas. Fait, oublie ça. Tu sais, ça aurait pas été le fun. Même le crédit aurait été limite.
Ouais.
Deuxième laissé pour compte, ce sont ceux qui ont perdu leur emploi avant la COVID-19, puis qui peuvent pas en retrouver un, puis qui sont déjà rendus au bout de l'assurance-emploi depuis, mettons, deux semaines.
Ah ouais, ben oui.
Puis les autres, ils sont en deux chaises. Puis, oups, ils sont tombés dans le trou. Ceux qui ont un petit revenu d'appoint, techniquement, ils n'ont pas le droit de demander la prestation canadienne d'urgence. Donc, je te donne un exemple. Tu as un petit 200$ par semaine de revenus d'appoint. Tu en as déjà trop pour le gouvernement. Donc, c'est non. Les travailleurs autonomes, là c'est le gros débat. C'était le débat sur Facebook que j'ai eu avec des entrepreneurs. Les gens, quand tu es incorporé, OK, puis tu as, je sais pas moi, 4-5 employés, puis que ou tu en as zéro, tu as juste toi, puis que tu te payes ton salaire en dividende au lieu de te payer en salaire, okay, tu te payes ton revenu en dividende, ben, tu n'es pas admissible à la PCU, à la Prestation canadienne d'urgence.
Hein?
Parce que, ben non, parce qu'ils jugent que c'est pas du salaire, c'est pas du revenu.
OK.
Donc, t'as pas le droit, tu sais. Fait que ça fait encore des gens qui sont laissés pour compte dans le calcul. Pourtant, c'est juste une question de substance économique, parce que dans la réalité, ils reçoivent un salaire équivalent par principe d'intégration. Ceux qui ont quitté leur emploi volontairement, tu sais, ceux qui ont dit, hey, moi, je lâche ma job, je me réoriente, je prends un mois de congé. Et là, 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 là.
Mauvais timing.
Timing is everything. Ceux qui ont été congédiés. Tu sais, quand tu es congédié, tu n'as pas le droit à l'assurance-emploi.
Non.
Fait que si tu es congédié au lieu d'être mis à la porte, tu n'as pas l'assurance-emploi, donc tu es en deux chaises. Ceux congédiés dans le sens pas pour des liens, pas mis à la porte pour la COVID, là, genre congédié. Pour les entreprises en démarrage, évidemment, ils se font un peu avoir parce que tu peux pas comparer ton revenu cette année avec ton revenu de l'année passée. Puis là, ils vont t'évaluer en fonction du stade où tu es rendu, mais... Peut-être que t'aurais vendu pas mal plus pendant les prochains mois si c'est en croissance élevée de chiffre d'affaires. Même chose avec les entreprises qui sont en croissance. C'est le gars qui a décidé en 2020, je vais doubler mon personnel, je vais doubler ma superficie, puis je vais augmenter mes ventes. Et là, lui, il a pas baissé de 30% ses ventes. Il a peut-être baissé juste de 10, ou il a peut-être augmenté de 10, mais il a des coûts fixes tellement plus élevés qu'avant que lui, il est dans le trou, là. Lui ou elle. Fait que la subvention est imparfaite parce que c'est basé sur les revenus. Donc, ça ne tient pas compte du bénéfice avant impôt ou de la marge de manœuvre. Ouais, t'es consultant ton compte chez vous, tu perds des revenus. Oui, mais t'as plus de dépenses. T'as une entreprise manufacturière, tu perds tes revenus, mais t'as encore des dépenses. C'est pas la même game.
Est-ce que c'est possible qu'ils adaptent, je sais, je te l'ai dit hier, là, mais je te le répète un peu, qu'ils finissent par adapter le programme pour justement essayer de boucher les trous, boucher les failles un peu.
Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils réfléchissent un peu, dépendant de la situation. Je parle pas d'un silent partner qui est assis chez eux, puis il reçoit 15% de dividendes sur un de ses placements. Ça peut pas compter. Mais quelqu'un qui a le dividende, moi, ce que je dirais, c'est que si tu reçois un dividende et que ce dividende-là constitue, exemple, un pourcentage élevé de ton revenu et que tu travailles dans l'entreprise, là, tu pourrais être admissible. Il y a des petites entreprises qui ne sont pas admissibles auprès de 40 000. Il y en a qui tombent entre les mailles du filet. Là. Bien là, on dit qu'on pourrait amener potentiellement de l'aide d'ailleurs, c'est à suivre dans les prochains jours. Et il y a les
bars.
C'est
que les bars l'ont pas, ouais, c'est ce que
je... Ouais, les bars, ils ont la subvention salariale, mais tu sais, on peut-tu se parler de la vérité derrière ça? Attends-tu qu'il faut faire ça, une petite parenthèse, sur pourquoi les bars ne sont pas financés par l'État?
Ben moi, je comprends pas.
Ben là, tu vas dire, l'État vend de la drogue, hein? vend du pot, puis...
Non, mais ils ont surtout déclaré que c'est un service essentiel, le pot puis la boisson, ouais. Fait que les bars, là, tant qu'à ça.
Bon, on va jaser.
Jasons.
On va jaser... Donne-moi des secteurs d'activité qui sont dans les bars.
Des secteurs d'activité? Je comprends pas. Ben,
les secteurs d'activité.
Vendre de la boisson.
Le crime organisé, le blanchiment. Tu comprends qu'il y a un peu de bandits derrière certains bars. Donc, si tu ouvres ça au bar...
OK, puis dans les autres business, il n'y a pas de crime organisé?
Oui, il y en a. Mais l'industrie du bar est particulièrement reconnue.
Non. Préjugé. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Pierre.
Ah non, écoute, tu viens à Montréal, je vais te faire un tour, je vais te pointer des adresses.
Ben, peut-être, ben justement, peut-être que dans certains quartiers à Montréal, c'est le cas, mais tu es en train de pénaliser tous les bars du Québec.
Ça, c'est vrai.
Les bars au Lac-Saint-Jean, les bars à Québec, ici, le crime organisé est bien moins présent qu'à Montréal, puis ils vont peut-être tous fermer à cause que. Il y a peut-être cette situation-là, je te le donne. Dans certains quartiers à Montréal, c'est contrôlé par le crime organisé. Mais tant qu'à ça, veux-tu qu'on parle de la construction?
Ah oui, écoute.
Moi, j'ai vu quelques reportages.
Non, c'est vrai, j'ai deux pieds dans le béton. Déjà, je me suis fait défoncer mon char, moi, j'étais tout ça.
Comment ça? Hein?
Pendant la COVID, moi, je suis en dedans de la maison, tu comprends?
Oui.
Fait que quand t'es en dedans de chez vous, ils savent, tu sortiras pas le soir. Là. Donc, tes lumières sont fermées, je me réveille un matin, je vais dans mon auto. Ben là, ma porte est entrouverte. Je dis, voyons, j'avais fermé ma porte comme il faut. Ouais. J'ouvre la porte, les pare-soleils sont baissés, le coffre à gants est ouvert, tout est vidé en dedans.
Oh!
Puis je sais, ça fait une couple de fois que le monde s'essaye. Chez nous, ça fait deux, trois fois. Moi, j'ai une porte de garage.
Ouais.
Les gens, ils essayent de trouver mon ouverture de porte de garage pour me voler. Là, ils seraient vraiment déçus parce que s'ils ouvrent mon garage, ils vont se rendre compte que la porte vers l'intérieur est barrée. Puis deuxièmement, ils vont se rendre compte que mon garage, il y a des outils dedans. OK, il va y avoir des outils, mais pas facile à vendre sur le marché secondaire de ce temps-ci. Puis deuxièmement, tu réussiras pas à... Tu sais, le gars, il a une masse de 5 de 10 ans. Là. Qu'est-ce que tu penses que tu vas trouver dans sa maison pour eux? Sérieux, là. Qu'est-ce que tu peux voler chez un gars de même? Hein?
Bon, non, genre, mais ça veut dire que les voleurs... Tu sais, des fois, on s'imagine dans temps de crise, arrête d'aller voler le monde, tu sais, sois un peu plus solidaire, tout le monde est un peu affecté, non, hein?
Il y a une opportunité.
Ça prend pas de brique, hein?
On me dit que les petits voleurs, Sylvain, ils sont pas là pour penser à dans trois semaines. Ils pensent à l'immédiat, puis souvent, c'est pour des besoins à très court terme.
Donc, des besoins de drogue ou des besoins de... Ouais, ça lâche.
Des fois, ici, ils me disent que c'est du très court terme quand t'as des vols comme ça. Fait que j'ai même pas appelé la police parce qu'on s'entend que...
Il n'y aura pas une grosse enquête. Il n'y aura pas une grosse enquête.
Il y a COVID-19, tu m'appelles pour ton char, pour vrai.
Oui, je comprends. Mais revenons au bar. Là. Moi, je pense que justement, notre discussion prouve que peut-être, oui, il y a des problèmes dans certains coins, mais là, tu vas pénaliser tout le monde. Ceux qui vont avoir le plus de misère à repartir, c'est les bars, parce que c'est des rassemblements, de la proximité et tout. Ils vont payer le prix aux autres. Énorme.
N'oublie pas, Sylvain, que dans les critères, il y a démontrer que ton modèle d'affaires est rentable et démontrer que ton modèle d'affaires peut perdurer après la COVID. On peut-tu jaser de notre affaire? Si comme bar, en général, t'as comme modèle d'affaires de déclarer un revenu peu appréciable. Parce que là, ça, c'est l'autre affaire que les gens oublient. Si les banques finançaient les bars et les restaurants, ben, les gouvernements financeraient peut-être les bars et les restaurants. Mais c'est très difficile pour un bar ou un restaurant, si tu veux te lancer en affaires, d'aller te faire financer ça parce que le risque de faillite est élevé. Donc, les banques vont te financer, une fois que tu as des actifs, vont te financer l'immobilier de ton bar, mais ils ne financeront pas l'opération puis le bar lui-même. Et c'est peut-être ça qu'il y a derrière aussi. Le financement des bars et des restaurants est difficile dans les banques régulières. Imagine quand le gouvernement doit accoter ou faire des garanties de prêt à des banques qui elles-mêmes ne le financent pas au départ. Et il est peut-être là la vraie raison, Sylvain. Bien, si moi, je veux me partir à un restaurant demain matin, puis je vais dans une banque, puis je veux avoir 200 000 pour faire mon restaurant,
non,
ils vont me dire non.
Zéro.
Zéro.
Non, alors, sais-tu quoi? Alors, vu que là, ils décident de discarter, entre guillemets, un peu les bars, parce que peut-être ils ont des peurs de crimes organisés, quand toutes les bars vont faire faillite puis vont fermer, y compris la majorité de ceux qui sont dirigés par des gens en aide, petite question pour toi, qui va ramasser les clés puis repartir le bar?
Ah, ça, je sais pas.
Le crime organisé, parce qu'eux autres, ils manquent pas d'argent. Je peux te dire que de la drogue, ils doivent en vendre encore, puis le monde est confiné, ils savent pas quoi faire. Fait qu'ils veulent éloigner le crime organisé. C'est eux autres qui vont tout contrôler. Le propriétaire Omaid, qui gérait sa business, son bar bien correct, lui, il va crever. Il y a quelqu'un qui va venir le voir, il dit « Hey, allô, moi, t'as l'acheté ton bar, moi. Moi, j'ai des reins solides et ben de l'argent comptant, moi. Une petite valise, puis salut. » Fait que ça va faire pire que mieux.
Ouais, mais je pense que le move gouvernemental est beaucoup plus lié sur... Les banques à charte puis les caisses puis tout ça, de leur modèle d'affaires régulier. C'est-à-dire, on va garantir des prêts, on va aider les banques à accepter des prêts ou on va faire des prêts directs, mais si dans le cours normal des affaires, t'en as même pas de prêts, pourquoi je t'en ferais un dans un cours non normal des affaires?
Ben, t'as-tu vu la liste des exceptions où barrés sont avec les prêteurs usuraires, puis une coupe d'affaires, commerce sexe, puis tout? Là, tu vois qu'il y a des préjugés. Ils ont vraiment mis avec d'autres domaines de l'économie où, bon, il y a de la controverse un peu, etc.
T'es le gouvernement, tu veux être plus blanc que blanc, puis tu veux pas te faire pogner d'un scandale. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un bar à côté de chez nous, c'était un petit pub, c'était un café-bar.
Ouais.
Puis c'est deux saltimbanques qui possèdent ça. C'est des anciens musiciens qui sont vraiment idéalistes, un petit couple. Puis ils servent leurs clients réguliers.
Ben, la mafia va aller ramasser.
Il n'y a rien là-dedans.
Mais qu'ils soient à terre, là, ben, c'est la mafia qui va aller ramasser. Puis tu vas te faire voler encore plus dans ton char parce qu'il va y avoir des bandits peut-être un peu partout dans ton quartier. Fait que pense-y comme faut. S'il faut, si on veut conserver les travailleurs honnêtes des bars, tu vois, il y en a, il va falloir les aider aussi.
Puis si je veux pouvoir y aller dans mon petit bar de quartier, il faut qu'il existe encore. Tu comprends?
En plein ça. Il faut les aider un peu. 16h55. Merci, Pierre-Yves.
Salut.
Salut. Bon week-end. On se reparle lundi prochain. Je sais pas ce que ça a donné, ça, avec nos auditeurs, Élie et Jean-Simon, quand on a parlé plus tôt ça, d'aider les bars. C'était au 25-226, c'était-tu oui ou non?
C'était pas mal, oui. La comparaison, c'était vraiment avec la SAQ. C'était ça le commentaire qui revenait le plus souvent. On comprend pas comment ça se fait qu'on peut aller à la SAQ.
Le commentaire de Pierre-Yves, il est pas mauvais du tout, parce que c'est sa réalité à lui. Puis c'est vrai qu'à Montréal, je suis conscient que la mafia, le crime organisé, est plus présent peut-être dans cette industrie-là. Encore là, pas partout, pas dans tous les quartiers, mais pas à Québec, là. Les propriétaires de bars à Québec, on les connaît. On est capable de mettre des noms, des fois, des visages. Voyons donc.
Ouais, les bars, il ne faut pas avoir l'image minuit le soir dans la tête, là. Je veux dire, c'est toutes les microbrasseries aussi, là. Toutes les petites taprooms partout à travers le Québec, là, qui servent une pinte de bière, tout ça, là. À mon avis, le crime organisé, il n'y a pas trop de main là-dedans, là.
Puis, tu as regardé ça, toi, le film La Commission Charbonneau, Jean-Simon?
Ouais, c'était bon.
C'était
ça.
Bon, ce film-là. Hein?
C'était pas mal, le mafia, tout ça, bandit et la construction. Je veux rien enlever, c'est pas toute la construction. Je veux pas faire la même erreur. Mais il était quand même fortement impliqué à Montréal dans la construction. Des propriétaires de bars à la Commission Charbonneau, n'ai pas vu beaucoup, moi.
Mais non, mais tu sais, c'est parce que de pas leur accorder cette aide-là, c'est comme de dire, ça me dérange pas si tu fermes, parce que de toute façon, des fois, il y a des activités illicites dans ton type de commerce. Mais le gars qui a jamais rien fait de croche, là, pourquoi lui, tu le ferais fermer?
Ouais,
pourquoi lui, il paye pour ça, tu sais?
Exact.